Radio Barque, le 9e de la 9e saison. Nous recevons Hélène Sandranier, présidente du département de l'Aude. Alors, cette deuxième partie, je l'annonçais tout à l'heure, Hélène Sandranier sera consacrée en grande partie justement à ce qu'on appelle, alors c'est un cliché peut-être, mais il a une signification, les déserts médicaux ou l'accès aux soins, une autre expression qui marque la difficulté, ici comme ailleurs en France aujourd'hui, pour beaucoup de gens, quand ils sont malades, de se soigner.
Oui. Nous sommes confrontés dans l'Aude, comme dans beaucoup d'autres territoires ruraux, à une diminution massive, effectivement, des professionnels de santé. Surtout, mais pas que, je le sais, dans la ruralité. Et donc, comme vous le disiez précédemment, notre mission, une de nos missions, c'est effectivement de répondre aux besoins des Audoises et des Audois. Alors la santé n'est pas notre compétence.
Voilà, bien que ça ne soit pas directement votre compétence.
Voilà. Mais quand effectivement les citoyennes se plaignent d'un problème récurrent et quand tous les maires que je rencontre et surtout les maires de la ruralité.
Bien sûr, qui sont plus durement touchés.
Plus durement touchés. Il faut évidemment décider que l'on va faire quelque chose. Enfin, c'est du moins ce que je pense. Alors, on n'a pas attendu Hélène Sandranier au conseil départemental pour faire quelque chose, pour faire face à cette problématique quand elle a commencé à s'installer.
Oui, mais vous semblez multiplier les actions et les initiatives récemment.
Voilà, il y avait un outil qui était l'aide à l'investissement, à la construction des maisons de santé que mes prédécesseurs avaient mis en œuvre. Moi, disons que j'ai tenté d'étoffer la boîte à outils, si vous voulez, que nous mettons à disposition des communes. Qu'est-ce qu'on y trouve? Ben, on y trouve l'aide aux internes qui viennent effectivement effectuer des stages par chez nous, que ce soit du logement ou du déplacement. On y trouve de l'aide à l'installation cabinet principal ou cabinet secondaire. On y trouve, par exemple, des aides pour la formation des infirmières en pratique avancée. On y trouve également des aides à l'achat de matériel pour les intercos comme les télécabines ou les chariots. Enfin bref, donc nous avons mis à disposition une boîte à outils pour les collectivités et répondre à la problématique. Il est clair que c'est insuffisant.
Voilà, et qui est très diversifié, parce qu'encore une fois, ça n'est pas votre compétence principale, obligatoire, etc. Ce sont des choix que vous faites à mesure, selon les circonstances.
Disons que, bon, je considère qu'il y a problème. Oui, on peut considérer que j'ai une sensibilité particulière, étant donné mon passé professionnel.
Une petite parenthèse, justement, Hélène Sandranier. Il n'y a pas très très longtemps, l'école d'infirmières, non pas de Narbonne, mais de Carcassonne, avait quelques problèmes. Les élèves ou les étudiants, je ne sais pas comment on dit exactement, se plaignaient que les conditions de travail n'étaient pas très bonnes. Où est-ce qu'on en est?
Ça
doit vous toucher doublement.
Oui, ça m'a touché, mais pour être honnête avec vous, sur cet aspect fonctionnement.
Alors, c'est vrai que c'est pas la charge du
département. Oui, mais en fait, ce n'est pas. Mais pour vous répondre sur cet aspect-là d'un dysfonctionnement qui a dû être réglé depuis, moi, par contre, en ce qui concerne la construction et de l'IFSI de Narbonne et de l'IFSI de Carcassonne, puisque c'est dans les cartons, nous allons intervenir pour ces deux constructions à hauteur de 500 000 euros pour chacune.
Ah, quand même, vous financez également.
Voilà, dans le titre, on va dire du développement du territoire. Donc, vous voyez, nous ne sommes absents de rien. Bon, bref.
Et ça, c'est le côté formation d'un secteur important pour la médecine.
Tout à fait. Ce département a besoin de professionnels. Vous avez vu que dans les emplois les plus en tension, il y a les métiers de la santé, les infirmières
et
notamment,
les
aides-soignantes. Donc il faut permettre à des appareils de formation de s'implanter, des appareils de formation de qualité. Mais si je reviens donc à notre action aujourd'hui pour permettre aux collectivités et pour permettre aux ODOA d'avoir accès aux soins, on a bien conscience que cela ne suffit pas aujourd'hui. Hein. Vous savez, ma position, j'ai longtemps traîné, contrairement à ce qu'on peut penser, pour aller vers ce type de disposition, considérant que le droit à la santé, c'est un droit...
D'État. Ouais.
D'État.
Régalien, on pourrait
tout
dire.
Tout à fait, presque, même si c'était pas... C'est pas exactement ça, mais
c'est
enfin...
C'est pas dit dans la Constitution.
C'est pas dit dans la Constitution. Parce que moi, je considère que le droit d'accès à la santé ne peut pas être lié à la richesse d'un territoire. Mais ça, c'est, pour moi, c'est une hérésie.
Oui, c'est la solidarité nationale.
Nationale. Or, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mmh. C'est ce qui se passe. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements... Bon, bref. En attendant, c'est quand même ça, la réalité.
Oui.
Hein? Et donc, moi, là, vraiment, mon interpellation, je ne m'en cache pas, et bon, mon interpellation du gouvernement à ce sujet est permanente, quoi. Permanente. Il faut aider les territoires. Alors, me diront-ils, oui, il y a les CPTS, oui, il y a les aides à l'installation, mais on a les CPTS en soi.
Alors, un petit mot sur ce sigle, Hélène.
Oui, là, les communautés professionnelles de territoire qui effectivement, sont des dispositifs qui ont un intérêt, hein, qui mettent à lien les professionnels, qui leur permettent donc de mutualiser, de s'organiser. Mais comme je dis, encore faut-il qu'il y soit le professionnel de santé et le médecin sur le territoire pour faire la CPTS.
Oui, l'idée, c'est de les mettre un peu en réseau.
Ben comme... oui, c'est entre autres cet aspect, puisque bon, on sait que les jeunes médecins ont besoin d'une pratique partagée, enfin mutualisée, qu'ils aiment, tout cela est légitime. Mais ces dispositifs montrent leurs limites, ce n'est pas assez. Et donc, il faut aller plus loin dans l'aide au territoire.
Parce que construire des maisons de santé, ce n'est pas le job du département.
Non, ce n'est pas son job. Mais dans le cadre de son job, si je reprends votre expression, qui consiste à aider les communes lorsqu'ils ont des projets d'investissement, hein, ce qu'on appelle, entre guillemets, les subventions aux communes, c'est-à-dire quand une commune veut bâtir, par exemple, une salle des fêtes, elle se tourne vers le département et elle lui demande s'il peut participer à cette construction. Donc, à un moment donné, on a fait un parallèle avec les maisons de santé.
Bien sûr.
Voilà.
Oui.
Mais on s'est aperçu aussi que derrière ces maisons de santé, ce qu'il fallait, c'est qu'il y ait un projet professionnel. Il faut que les professionnels s'emparent, et ils le font quand ils existent, de ces projets, parce que il faut le projet avant la construction. Sinon, la construction devient très se vide. Mais... si le projet n'existe pas. Donc moi, je souhaite que l'État, franchement, aille plus loin. Alors oui, je fais partie de celles qui disent qu'il y a peut-être des mesures à imposer.
Alors à propos, il y en a une qui a été discutée et qui est vite devenue polémique, c'est ce qu'on appelle la quatrième année. Des internes.
Oui, moi, la quatrième année.
Qu'on aurait voulu contraindre, à aller sur le terrain, entre guillemets.
Ben, moi, si on est en formation, on n'est pas en exercice.
Oui.
Et pour moi, un interne, c'est pas un professionnel.
Donc c'était une idée techniquement irréalisable, vous pensez?
Non, elle est pas techniquement irréalisable. Mais ce que je pose là, c'est à quoi elle sert. Moi, que cette quatrième année soit nécessaire, je suis pas assez compétente, honnêtement, pour juger de la complétude du parcours des internes. Mais si cette année de quatrième année, donc de formation, s'avère nécessaire, qui serait une année de stage, évidemment que les internes vont faire du travail, mais ils vont faire du travail sous la supervision d'un maître de stage, donc d'un médecin. Donc il faut déjà qu'il y ait sur le territoire concerné un médecin qui puisse faire cet encadrement et ce fameux tutorat.
Oui, donc ça ne résout pas le problème du toubib rural.
À mon avis, non. À mon avis, ça ne le résout pas. Ça ne le résout pas. Et je ne pense pas que cela serve à cela.
Et alors, Hélène Sandranier, qu'est-ce que vous verriez, vous, comme mesure prise par l'État, par le gouvernement, à imposer?
Ben, moi, je fais partie de celles qui, à un moment donné, pensent que, comme dans d'autres professions, où on impose d'aller travailler dans des territoires où un besoin se fait sentir, je pense, hein, alors, j'ai toujours mis des précautions en disant cela. Je parle d'une année, moi. Je parle d'un service, entre guillemets, médical à la sortie des études. Une année à mettre à disposition au service de territoires ruraux. Je parle également de donner dans ces moments-là à ces jeunes médecins, pendant une année, toutes les conditions matérielles et financières pour qu'ils puissent exercer ce service médical. Il y a ça. Il y a aussi la question des conventionnements ou déconventionnements. Il faut le regarder. Oui, on ne peut pas.
C'est-à-dire ne conventionner que ceux qui appliquent la règle, en
quelque sorte. Oui, c'est-à-dire que, alors, je sais bien que le contre-argument de ça, c'est de me dire, mais il n'y a plus de zones surdotées. Il n'empêche qu'il y a quand même des endroits où il y a des concentrations de médecins et il y a des endroits où il n'y en a pas.
Quand même, oui.
Quand même. Donc, on pourrait faire intervenir effectivement une condition liée au conventionnement ou au déconventionnement. Là aussi, sur des temps limités. Mais il faut ouvrir quand même. Enfin, je pense vraiment qu'on ne peut pas continuer comme ça. On en a pour une dizaine d'années.
Oui, mais aujourd'hui, avant que les effets de la fin du numerus clausus soient ressentis.
Mais oui, mais on veut faire vivre les territoires ruraux. On veut ramener.
On le dit.
Mais on le dit. Alors, oui. On veut ramener la vie. On veut ramener les gens. On a vécu le Covid qui a fait qu'il y a eu un afflux de la ville à la campagne. D'accord? On le voit dans l'Aude. Il y a eu une flambée des ventes.
Mais il faut que ça perdure.
Mais il faut offrir les services. Hein? Il faut offrir les services. Il faut que ces personnes-là aient Internet. C'est d'ailleurs pour ça qu'avec le CIADEN, nous nous sommes lancés dans le plan 2.
On va y revenir.
Ah bon, d'accord. Il faut les services. Il faut les routes, entre autres. Il faut des commerces. Il faut des médecins. Moi, je me mets. Enfin bon, je suis peut-être une élue, mais d'abord, je suis une femme, mère, grand-mère. Je m'imagine dans un territoire où on me dit, mais venez vous installer, madame, il est super ce territoire. Et je dis, bon, comment je soigne mon petit? Ah ben, soignez votre petit, il faut aller à 50 kilomètres.
Ben oui.
Ça refroidit quand même.
À ce propos, parmi les actions concrètes récemment avec M. Banquet, le président de Carcassonne Agglo, vous avez reçu à Carcassonne un certain nombre d'internes venus de la fac de Toulouse, si je ne me trompe, pour essayer de leur faire découvrir le territoire. Et puis sous-entendu, ben, quand vous aurez fini, venez chez nous.
Mais tout à fait. C'est l'idée. C'est de leur montrer effectivement... ce territoire, ses atouts, ce qu'on peut leur offrir, la qualité de vie. Alors, tout le monde n'aspire pas à une qualité de vie dans des territoires comme les nôtres. Il y a des urbains, mais certains peuvent choisir. Voilà. Donc, l'idée pour nous aussi, c'est pas de croiser les bras. C'est pas le cas, hein, on se croise pas les bras. Mais c'est de vanter ce territoire, de vanter ces paysages, de vanter ce qu'on peut y faire, de vanter, comme je l'ai dit, une qualité de vie. Ici, on a la mer, on a les sports de glisse, on a la haute vallée, on a la montagne, on a les plaines. Enfin, bon, voilà quoi.
Voilà, il s'agissait en fait de vendre le territoire.
Mais oui. Et de vendre aussi, il n'y a pas que ça, de vendre aussi nos dispositifs, de vendre, on a vendu aussi un numéro unique que nous mettons en place, où les internes peuvent effectivement appeler et on peut les mettre en relation avec d'autres partenaires qui pour un logement, qui pour un emploi de conjoint. Enfin, il faut qu'on se mobilise
tous. Savoir qu'on va leur faciliter la tâche s'ils viennent chez nous.
C'est ça, qu'on va les aider.
On marque une seconde pause, Hélène Sandranier, sur cette bonne formule. Comment attirer des médecins sur son propre territoire ?